Nous avons commencé à lire l'évangile de Marc cette année, le dimanche. Nous sommes au premier chapitre. Et dans ce premier chapitre, tout se passe très vite. Nous avons entendu ce refrain « aussitôt, aussitôt ». Il revient une dizaine de fois dans ce chapitre. 13 versets seulement pour le ministère de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, sa tentation au désert, l'emprisonnement de Jean, tout ça en 13 versets. Et puis vient le texte d'aujourd'hui avec cette rapidité qui va directement avec toute sa force au premier mot de Jésus, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Et comme nous avons vu, les résultats sont immédiats. Tout de suite, quatre jeunes gens, deux fois deux frères, quittent tout pour suivre Jésus. Ils acceptent son invitation de devenir pêcheurs d'hommes, sans savoir vraiment ce que ça veut dire, et surtout sans savoir ce que ça va leur demander à long terme, sans savoir qu'il va falloir tout quitter pour le suivre plusieurs fois, bien des fois, tout au long de leur vie, pour le reste de leur vie. Pour l'instant, ils croient sans doute qu'il s'agit de suivre Jésus dans une tournée de prédication en Galilée, leur région, là où ils habitent. Ces quatre ouvriers de province ne savent pas qu'eux-mêmes vont devenir de grands prédicateurs. Pourront qu'elle est prédicateur d'abord dans un contexte dramatique à Jérusalem, tout de suite après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ne savent pas, bien sûr, que l'un d'entre eux, Jacques, va mourir très jeune pour sa fidélité à Jésus, parce qu'il a suivi Jésus. Ils ne savent pas qu'un autre, Pierre, va prêcher dans les plus grandes villes de l'Empire romain, Antioche et Rome, avant de donner sa vie lui aussi pour Jésus. Ils ne savent pas qu'un troisième, Jean, deviendra un très grand théologien et qu'il va vivre presque 100 ans. Il va passer la fin de sa vie dans l'actuelle Turquie, dans la grande ville d'Éphèse. Voilà où conduit ce premier oui dans leur vie à eux. Bien sûr, ils ne savent pas, vous ne pouvez pas imaginer, qu'à cause d'eux, nous sommes ici aujourd'hui, ce matin, ici au Québec. C'est nous qui avons été pêchés par ces ouvriers de Galilée. Ils ne savent rien de tout ça, mais ils ont dit oui. Ils ont mis leur confiance en Dieu ce jour-là. Et jour après jour, après. Et avec ce oui du premier jour, renouvelé jour après jour, Dieu a fait de grandes choses. D'ailleurs, dans tout le reste de la Bible, Dieu fait de grandes choses avec des petits moyens, presque toujours. Ce dimanche, nous avons entendu dans la première lecture l'histoire de Jonas. Chaque dimanche, la première lecture est choisie dans l'Ancien Testament en lien avec l'Évangile. Et ce matin, on a choisi Jonas. Alors, j'aimerais vous parler assez longuement de ce livre, parce que déjà, ce choix est intéressant, mais aussi, ce dimanche, c'est le seul dimanche dans le cycle des 3 ans des lectures bibliques, nous avons un extrait du livre de Jonas. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres histoires dans l'Ancien Testament de gens qui sont appelés par Dieu, appelés à être son messager, appelés à être son serviteur. Mais le cas de Jonas est très particulier. Ce livre, vous vous souvenez, tout le monde se souvient de la baleine dans le livre de Jonas. Donc, ce livre se présente clairement comme un conte, donc pas comme une histoire vraie. C'est un conte, comme la baleine. Et c'est aussi un conte humoristique. Ce livre est de loin le livre le plus drôle de toute la Bible, le livre de Jonas. L'humour est très fin, mais au-delà de l'humour, le message théologique de ce livre est profond. Beaucoup de l'humour dans ce livre tourne autour de la personnalité de Jonas. Il est appelé par Dieu à être prophète, mais il est peureux, il est entêté et il est grincheux. Ceci dit, la mission que Dieu lui confie est humainement impossible. Ninive, la grande ville païenne. Ninive est la capitale de la superpuissance politique de l'époque. On a entendu, c'est une ville, 3 jours pour traverser cette ville. C'est la capitale de l'empire assyrien qui avait envahit tous les pays environnants, c'est un immense empire, et bien sûr, ces païens ont des mœurs dépravées. C'est comme si Dieu envoyait l'un de nous à Manhattan pour convertir tout le monde à Manhattan. Ninive est dans l'actuel Irak, donc à l'est d'Israël. Et la première action de Jonas, devant cet appel de Dieu, c'est de prendre un bateau pour l'Espagne. Donc il fuit vers l'autre bout du monde, l'autre extrémité du monde. Et comme tout le monde le sait, c'est la baleine qui amène Jonas, bien malgré lui, donc à Ninive pour sa vocation de prophète. Donc voilà Jonas qui arrive à Ninive et il commence quand même à dire que Dieu va juger les Ninivites sévèrement s'ils ne se convertissent pas. Alors Jonas lui-même ne croit pas à cette conversion. Il ne croit pas que les Ninivites vont se convertir. Jonas croit Dieu comme fer, que ces maudits païens ne mérite qu'un châtiment terrible de la part de Dieu. Mais dès qu'il commence à annoncer ce que Dieu va faire, les Ninivites se convertissent tout de suite. C'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et puis nous avons entendu cette phrase, « Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. » Donc Dieu leur fait miséricorde. Beaucoup d'autres livres dans l'Ancien Testament disent que Dieu veut sauver les nations païennes par le moyen d'Israël, mais je pense que le livre de Jonas est le seul qui montre cette miséricorde de Dieu pour les païens dépravés s'ils se convertissent. Jonas, lui, ne veut rien savoir de miséricorde pour ses païens. Il n'a aucune réaction personnelle devant le succès de sa mission. Au contraire, il s'assoit sur une colline pour voir si Dieu ne va pas quand même faire quelque chose de spectaculaire pour châtier, comme châtiment pour les Ninivites, ses païens. Alors Dieu parle à Jonas de sa miséricorde avec beaucoup de patience. Et en plus, il fait des gestes de miséricorde concrètement pour Jonas, lui aussi. Donc, Dieu est miséricordieux avec cet homme qui l'a refusé, cet homme qui est grincheux, cet homme qui est revanchard. Mais surtout, Dieu dit à Jonas que les Ninivites ont péché par ignorance. D'ailleurs, l'ignorance des Ninivites, leur bêtise, c'est aussi une des... c'est super puissant, hein. C'est un des thèmes humoristiques dans le livre. Les Ninivites, ces superpuissants, ont péché par ignorance. Donc à la fin de ce livre, qui est tout court, vous pourrez le lire cet après-midi, à la fin, l'immense miséricorde de Dieu est contrastée à l'immense pauvreté des hommes, les païens superpuissants, mais aussi qui sont stupides, et la pauvreté d'un prophète qui ne se convertit pas et qui refuse de comprendre Dieu. La miséricorde immense de Dieu devant ces deux exemples de pauvreté humaine. Bien sûr, donc, dans tout ça, il y a beaucoup d'espoir pour nous. Même si nous, parfois, nous sommes entêtés, cracheux, à peine convertis, pas tout à fait convaincus par rapport à Dieu, même avec notre pauvreté, Dieu peut faire de grandes choses là où il nous appelle. Il suffit de dire notre petit oui à Dieu pour qu'il agisse puissamment, pour qu'il fasse de grandes choses autour de nous par notre petit oui.